Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on a sur la table un document assez singulier. Ce n'est pas une étude complexe, c'est plutôt une sorte de guide, une carte. Il s'agit d'un itinéraire mémoriel en France qui connecte 14 lieux pour raconter une histoire, celle de la résistance, dans une région bien précise. Notre analyse, ça va être de suivre ce chemin et de comprendre comment ces lieux, ces stèles, dialoguent entre eux pour construire un récit.
Oui, c'est d'une démarche fascinante, parce que ça nous sort complètement du cadre du musée traditionnel. Un itinéraire comme celui-ci, ça rend la mémoire active. On n'est plus passif derrière une vitre. On est invité à se déplacer, à marcher, là où l'histoire s'est faite. C'est une expérience presque physique de l'histoire, qui ancre le passé dans le paysage.
Exactement. Et le document insiste sur une image que je trouve très parlante, celle des pierres. Qu'il s'agisse de stèles brutes ou de marbre poli, chaque arrêt est comme une pierre qui construit le récit. Mais ce qui m'a vraiment interpellée, c'est que le texte met en scène des jeunes, et les résistants, mais aussi leurs parents, marqués par la guerre de 14-18. Ce fil entre deux générations, ça semble être la clé. Alors, commençons notre exploration.
Par le commencement, donc. Le cœur du réacteur, là où tout s'organisait.
C'est ça. Le parcours nous emmène d'abord sur les traces des bases du maquis, les camps. On a le point 2 à Meillard, une stèle pour le camp Hoche dans une clairière. Le point 3, toujours à Meillard, une autre stèle pour les camps Hoche et Casanova. Et puis, beaucoup plus loin, le point 14 à Besson, un monument très récent de juin 2021 qui marque la création du camp Daniel Casanova. Ce qui est curieux, c'est cette multiplicité. Pourquoi plusieurs lieux pour les mêmes camps en fait?
C'est une excellente question. On pourrait se dire qu'un seul grand monument suffirait, non? Mais cette dispersion, en fait, elle est très très parlante. D'abord, elle reflète la nature même du maquis, mobile, décentralisé. Et puis, ça montre que la mémoire s'ancre différemment selon les communautés. Une stèle dans une clairière, c'est un souvenir intime, presque secret.
Attendez, un monument de 2021 sur un rond-point. Ça m'étonne. Pourquoi si tard? Et un rond-point, un lieu si banal pour un souvenir si fort.
Je pense que c'est précisément le but. Installer un monument si récemment, c'est affirmer que cette mémoire n'est pas morte, qu'elle est toujours pertinente. Et le choix du rond-point est très symbolique. On ne met plus les monuments uniquement dans des lieux sacrés comme les cimetières. On les place au cœur du quotidien, là où tout le monde passe. C'est une manière de dire n'oubliez pas. Même dans votre vie de tous les jours, souvenez-vous. Et ces camps, ce n'étaient pas de simples refuges, c'était des centres névralgiques, des bases d'où partaient les opérations.
Et justement, de ces bases, on passe à l'action. Le parcours nous guide vers les cicatrices laissées sur le territoire. Le point 1 à Châtel-de-Neuvre, une stèle près d'un pont qui a été détruit. Le point 9 à Noyant-d'Allier, le sabotage d'un tunnel ferroviaire. Et puis une action d'un autre type au point 8 à Châtillon, une embuscade menée par le camp Casanova.
On voit ici toute la palette de la guérilla, quoi. Détruire un pont, saboter un tunnel, ce sont des actions quasi chirurgicales. L'objectif, il est matériel, paralyser la logistique de l'ennemi. C'est un combat de l'ombre, très technique, qui demande une planification.
Alors que l'embuscade, c'est tout l'inverse, c'est la confrontation directe.
Exactement. L'embuscade, c'est le moment où la guerre de l'ombre devient une guerre de feu. Le risque est maximal. C'est une décision qui vise à infliger des pertes, bien sûr, mais aussi à marquer les esprits, à montrer à l'occupant qu'il n'est en sécurité nulle part. En fait, l'itinéraire, en juxtaposant ses actions, il dresse une cartographie très précise des stratégies de la lutte armée. Ce n'était pas désordonné.
Une guerre qui, bien sûr, avait un coût humain terrible. Et c'est là que le parcours bascule dans une dimension plus intime, plus douloureuse. Il nous force à mettre des visages sur cette lutte. On passe des actions collectives aux sacrifices individuels. Le point 6, la stèle pour Marc Bonneau. Le point 7, pour Roger Bellien. Le point 11, pour Louis Lanus. Et le point 13, pour André Hubschwerlen et Robert Yoton. Juste des noms sur des pierres.
Et c'est absolument fondamental. Sans ces noms, l'histoire, bien, ça reste une abstraction. On parle de la résistance comme d'une entité. Mais ces stèles nous rappellent que derrière ce mot, il y avait des individus, Marc, Roger, Louis, des jeunes hommes avec une famille, une histoire. Donner leur nom, c'est refuser qu'ils soient dissous dans la grande histoire. Chaque stèle, c'est une histoire interrompue.
Je me demande ce que ça fait pour les habitants de ces villages de passer tous les jours devant ces noms. Ça doit créer un lien très fort. Ce n'est pas un héros anonyme, c'est Roger Bélien, peut-être le fils du voisin. Ça rend la perte tellement plus concrète.
C'est tout à fait ça. C'est une mémoire de proximité. Et le parcours va encore plus loin. Il montre que la violence n'a pas touché que les combattants. Au point 4, au cimetière, il y a une plaque pour les « morts pour la France ». Mais juste à côté, au point 5, une autre plaque précise pour les « déportés, morts pour la France ». Et là, on change de dimension. On n'est plus dans le combat, mais dans la mécanique d'extermination.
Oui, et il y a un monument qui m'a particulièrement marqué. Le point 10, à Noyant-d'Allier. Il commémore une ferme qui a été incendiée. Le monument a été installé en 2014. Une ferme incendiée. L'image est terrible. C'est pas juste un bâtiment, c'est un foyer, une vie de labeur qui part en fumée.
C'est le symbole même des représailles collectives. C'était une stratégie de terreur. Pour un résistant aidé, c'est tout un village qui paie. En brûlant une ferme, on ne punit pas seulement une famille. On cherche à terroriser tous les autres pour qu'ils cessent d'aider le maquis. On s'attaque aux racines de la communauté. Le fait que le monument date de 2014, ça montre que la société a besoin de temps pour affronter ses traumatismes. La mémoire de la souffrance civile est parfois plus longue à émerger.
Donc si on récapitule, le parcours nous a montré l'organisation, l'action, le sacrifice des combattants et la souffrance de toute une communauté. Le récit semble complet. Et puis, on arrive au point 12, le monument aux morts d'Orocle. Et là, on tombe sur quelque chose qui semble n'avoir aucun rapport. Le document le décrit comme un monument pacifiste, érigé après la Première Guerre mondiale. Il y a même cette phrase gravée, « La voix d'un enfant, apprenons à supprimer la guerre ». Franchement, qu'est-ce que ce monument vient faire dans un itinéraire sur la résistance? C'est un paradoxe complet, non?
C'est un paradoxe apparent, mais en réalité, c'est la clé de tout le parcours. C'est le point qui donne tout son sens au récit. Votre question est la bonne. Pourquoi le mettre ici? Pour nous forcer à réfléchir à la motivation profonde des résistants. En plaçant ce vœu de paix au cœur d'un parcours sur la guerre, les concepteurs nous connectent aux deux générations dont on parlait au tout début.
Celle des parents de 14-18 et celle de leurs enfants de 39-45.
Précisément. La génération des parents, c'est celle qui est revenue de l'enfer des tranchées et qui a érigé ce monument avec un espoir immense. Plus jamais ça. C'est un cri contre la guerre. Leurs enfants, les jeunes résistants, ont grandi avec ce message. Ils n'aimaient pas la guerre, mais ils se sont retrouvés face à une tyrannie qui était la négation même de cet espoir de paix.
Donc leur combat n'était pas une glorification de la guerre?
Au contraire. Absolument au contraire. C'était une lutte menée au nom de cet idéal de paix qui était bafoué. Ils ont dû prendre les armes, non par goût de la violence, mais parce que c'était le seul moyen qui leur restait pour défendre la possibilité même d'un monde en paix. C'est tragique, mais ils se sont battus pour que le vœu de ce monument pacifiste ne meure pas. Ce n'est pas un paradoxe, c'est une dialectique tragique. Et ça donne une dimension philosophique et profondément humaniste à leur engagement.
C'est une perspective vraiment éclairante. Ça change tout, en fait. Ce parcours, ce n'est donc pas seulement une leçon d'histoire locale. C'est une narration construite avec une intelligence remarquable. Elle nous fait passer des tactiques de guérilla à une réflexion universelle sur le rapport entre la guerre et la paix. C'est bien plus puissant qu'une simple liste.
Absolument. Ce document nous montre comment la mémoire se fabrique activement. Relier ces 14 points, ce n'est pas juste se souvenir. C'est interpréter, c'est donner un sens au passé pour éclairer notre présent. Le message final, ce n'est pas seulement « souvenez-vous de leur courage », ce qui est déjà énorme. C'est surtout « souvenez-vous de ce pourquoi ils se sont battus ». Et la conclusion, avec Ruckels, c'est que ce but ultime, c'était un monde où les enfants n'auraient plus à apprendre la guerre.
Un message d'une actualité saisissante.
En effet. Et pour finir, ça m'amène à une dernière pensée. Le document utilise cette belle métaphore des pierres posées dans le paysage. Si eux ont utilisé le granit et le marbre pour graver leur message d'espoir, on peut se demander quelles sont les pierres que nous on pose aujourd'hui. Quels sont les récits, les traces que nous laissons derrière nous pour que les générations futures puissent comprendre les combats et les espoirs de notre propre époque.